magazine que vous allez suivre est une rediffusion.
Pour cette dernière rediffusion des bandes passantes autour des livres, Yves Bigot et son « Je t'aime moi non plus, les amours de la chanson française » volume 1, anecdote garantie.
La bande passante.
La bande passante.
Laurence Pierre.
Les Français n'entendent pas la musique, disait Hugo Frey. Ils entendent les mots, ce sont des littéraires. Et nous voici au centre de notre préoccupation ce soir. Les Français viennent d'une culture où ils déclament les mots plutôt qu'être séduits par la mélodie. Pour eux, ce sont les paroles qui font la chanson. Une culture de la chanson française tellement différente de l'allemande, l'anglaise, l'américaine ou encore l'italienne. Alors oui, Françoise Hardy met la mélodie au centre de sa chanson. Quand oui, Juliette Gréco met chaque mot en valeur comme au théâtre. La culture contre la contre-culture, les anciens contre les modernes, la tradition contre la révolution, la chanson contre le rock'n'roll ou les amours de la chanson française avec le rock. Je t'aime moi non plus, disait Gainsbourg, je t'aime moi non plus, de Gainsbourg à Goldman, aux éditions Don Quichotte, un manifeste, une bible, un roman, un journal intime signé Yves Bigot. Bonsoir Yves Bigot.
Bonsoir Laurence.
Et merci d'être avec nous ce soir.
Je vous en prie, merci de me recevoir.
C'est un ouvrage très très fort que vous faites paraître ce 22 septembre, très émouvant aussi, sans concession bien souvent, qui éclaire sur cette liberté d'expression pas gagnée d'avance. Émouvant aussi parce que vous vous mettez en scène de par votre parcours au milieu de tous ces artistes. Ne le prenez pas mal, mais vous êtes un peu l'ami des vedettes quelque part.
Ah, pas toujours, hein, comme certains ont pu me le reprocher justement, hein, mais on va dire que je les connais à peu près tous, hein, professionnellement. Et j'irai des deux côtés, parce que j'ai, comme vous, fait de la radio, de la télé, beaucoup écrit dans la presse, etc. Mais je les ai aussi produits, parce que j'ai dirigé des maisons de disques. Donc on va dire que j'ai un peu fait le tour de ce qu'était leur problématique.
On croise combien d'artistes dans cet ouvrage? Plus d'une centaine.
Là, il y en a beaucoup. Là, je pense que j'ai traité principalement 30 chapitres, on va dire, mais qui réunissent une cinquantaine, en tous les cas au moins, d'artistes dans ce premier volume, et il y en aura plus encore dans le deuxième.
Je disais que vous vous mettez en scène dans ce livre aussi. Est-ce que c'est un livre de mémoire?
Alors, en tous les cas, c'est celui de
ma... Un livre de vos mémoires, de votre mémoire.
Alors, c'est en partie ma mémoire et c'est aussi mon expérience et celle de ma génération. Parce que ce qui a peut-être poussé à ce que aujourd'hui, je travaille et je réfléchisse justement sur la percussion, hein, de la chanson française héritée de notre grande tradition littéraire, poétique, philosophique, etc. Avec le rock qui est un truc animal, spontané, américain, étranger, dans une autre langue, un peu extraterrestre, c'est avec le recul, pour un peu témoigner de ce que j'ai vécu sur ce qui a été la grande problématique justement de ma génération, et de ma génération française nécessairement, parce que c'est vraiment une question uniquement française. En l'écrivant, je me rends compte que nos amis québécois ou belges, par exemple, n'ont pas cette problématique de la même façon et pas aussi poussée que ça, mais ça dit la force de notre culture à nous. Mais si je l'ai fait aujourd'hui, c'est parce que je vois qu'on a on est en train de perdre la mémoire de cette période. Parce qu'aujourd'hui, soit vous avez de plus jeunes journalistes qui n'ont pas vécu ça et qu'on est en train de résoudre actuellement cette problématique donc que je chronique, hein, d'une certaine façon. Et puis parce que beaucoup d'artistes écrivent leurs mémoires en ce moment ou des biographies, hein, auxquelles ils participent, etc. Et ils ont tendance, eux, évidemment, à éradiquer tout cet aspect-là, puisque c'est un aspect qui, soit pour eux, les a, alors pour certains, marginalisés, pour d'autres, les a fait souffrir. Et en tous les cas, a été un antagonisme qui a existé entre eux. Alors d'un côté, on va dire la critique rock, par exemple, d'un côté, et puis les vedettes de la chanson française de l'autre. Donc comme on oublie les tensions de ce demi-siècle, je pensais, comme je les ai vécues, puis que je les ai chroniquées, voilà, dans beaucoup de médias, et que je connais les artistes pour les avoir aussi produits, c'est-à-dire je connais aussi leurs problématiques financières, leurs angoisses sur leur carrière, savoir mais comment ils vivent, et puis demain, comment ça va, avant ça marchait, aujourd'hui ça marche moins, etc. Voilà, j'ai pensé que c'était le moment d'un peu de raconter, et donc de mémorialiser, Laurence, pour reprendre votre formule, cette époque.
Je rappelle que vous êtes actuel directeur de TV5 Monde, vous êtes donc au cœur du problème, vous venez de l'évoquer, ancien journaliste de presse écrite, vous l'avez dit, homme de radio et de télévision, producteur aussi au sein de Maisons de Disques. On est donc aux premières loges en votre compagnie ce soir. Bienvenue à tous dans cette bande passante historique et iconique.
soir, la journée, petit déjeuner, café au lait, service compris et taxe censé, je suis de puce. Achète des locataires, ventilateur au plafond, cosy, corner, matelas crevé, dessus de lit en pilou.
Serge Gainsbourg, Yves Bigot, pour ouvrir cette bande passante. On a coutume de dire que c'est Je t'aime moi non plus qui lui a ouvert les portes du reggae, de la Jamaïque, ou en tout cas Sly and Robbie l'ont plutôt accueilli à bras ouverts, puisqu'ils connaissaient cette chanson. On est en 1979 avec Aux armes, etc. Il y a un long chapitre consacré à Serge Gainsbourg que bien sûr vous avez beaucoup côtoyé. Pourquoi avoir choisi d'en faire l'album phare? Vous finissez chaque chapitre avec l'album phare, l'album culte, l'album classique. Alors d'abord, est-ce que c'est un choix subjectif? Sur quoi est-ce que ça se base? En tout cas, ça, c'est l'album phare de Gainsbourg, d'après vous.
Oui, en tous les cas, ça a été le premier album de Serge Gainsbourg qui a été un grand succès commercial. C'est ça qu'il faut bien voir, parce qu'aujourd'hui, Gainsbourg, c'est une telle icône. Évidemment qu'on a
avant
le sentiment...
Avant 79, ça ne fonctionnait pas du tout.
Ben, il avait des tubes à droite à gauche, souvent par interprètes interposés d'ailleurs, de France Gall à Brigitte Bardot, Juliette Gréco, etc. Mais il faut par exemple se souvenir que l'histoire de Melody Nelson, qui aujourd'hui est un chef-d'œuvre absolu, qui aujourd'hui est considéré, y compris en Angleterre ou aux États-Unis, comme un album iconique, etc. Et un disque qui a été un bide absolument retentissant à sa sortie. Il avait dû en vendre tout juste 15 000 exemplaires dans un marché où on était tout le temps au-dessus du million. Et il avait failli se faire virer de sa maison de disques avec Melody Nelson. Donc Gainsbourg, moi, quand je l'ai rencontré pour la première fois un peu plus tard, ça devait être en 73, si ma mémoire est bonne, c'était quelqu'un qui allait faire des émissions de radio, des émissions de télé comme ça à droite à gauche, mais qui cherchait du succès, ce qui d'ailleurs l'a obligé à faire des morceaux qui ne sont pas ce qu'il a fait de plus glorieux, comme My Lady Heroine, Six Sex and Son, ou voilà, des choses comme ça, qui étaient, ou la micaouette, qui est là où il touche le fond.
Est-ce que Gainsbourg est le premier artiste à avoir su marier justement l'esprit rock et la chanson française, avec ses onomatopées, son franglais, son yaourt, sa façon de chanter?
Bien sûr, c'est le premier des modernes, tout en étant un classique. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai voulu commencer un peu cette étude par lui, parce que Gainsbourg, à la fois, il sait parfaitement écrire de la poésie, ou donc des paroles, comme les meilleurs poètes francophones. Il connaissait par cœur et la musique, et la poésie, et la littérature, etc. Mais il a compris très vite, et avant même quasiment le rock, déjà avec le jazz, qu'il fallait écrire en faisant sonner les mots. Il avait déjà des idoles qui étaient des pianistes de jazz, etc. Et puis Nat King Cole, etc. Et quand le rock est arrivé avec ses guitares, etc., il a tout de suite compris que c'était là qu'était la modernité, que c'était là qu'on allait toucher véritablement le public, et puis surtout que c'était ça qu'il fallait faire maintenant. Et il a su absolument, justement, remarquablement, lui, arriver à trouver en français des mots, des formules, et parce qu'il possédait absolument remarquablement la langue, hein, et la métrique de la poésie, etc., il a su s'y adapter formidablement, mais en voulant être tout le temps moderne. Moi, je me rappelle, vraiment comme anecdote, en tous les cas, qu'il adorait parler anglais. Moi, il était venu faire une émission pour Antenne 2 à l'époque avec Antoine Decaune et moi, et j'avais fait l'interview, mais notre réalisateur, Peter Stewart, était américain, et du coup, on parlait à Peter en anglais, et alors il adorait ça. Et il voulait faire durer l'interview, il ne voulait plus partir, parce qu'il avait plaisir à parler en anglais avec nous, mais parce que pour lui, il avait l'impression d'être au cœur de ce qui se passait et là où ça se passait.
Serge Gainsbourg est parvenu à relever ce double défi, celui d'appartenir déjà au patrimoine tout en restant essentiel et contemporain, écrivez-vous. Ce qui n'a pas été le cas de tous les artistes qui ont enregistré dans les années 70 et qui bien souvent se sont perdus dans les affres de ce qu'on a appelé le show business.
Je t'attendrai jusqu'à 10 heures et peut-être une heure encore. Que fais-tu ce soir après dîner? J'aurais tant aimé me promener une heure avec toi dans la lavande et dans tes bras. Après nous irons danser si tu veux.
Le destin des groupes de cette période, écrivez-vous, Yves Bigot, dont je t'aime moi non plus. Vous êtes ému à l'écoute de Il était une fois.
Ça fait longtemps que je ne l'ai pas entendu cette chanson, mais je l'aimais beaucoup à l'époque. Ouais.
Qu'il est terrible le destin de ces groupes très motivés, très bons musiciens le plus souvent, mais qui souffrent de ne pas trouver suffisamment de soutien, de salles, de tourneurs, de relais médiatiques, malgré à l'époque rock and folk. On est fin des années 60, début 70, il y avait Best, Extra, Pop Music, Super Hebdo pour la presse, et puis Campus, le Pop Club et WRTL à la radio, quelques rares émissions de télévision aussi, de Bouton Rouge à Pop 2. Et ça manque de public aussi, dans une France encore coincée entre Salut les copains et Guy Lux. Pourquoi cette France est-elle coincée à ce point, Yves Bigot?
Ah, parce que on est un pays qui n'a pas tellement de d'éducation musicale. Jacques Lang a commencé à y remédier, mais c'est vrai qu'on n'est pas un peuple musicien. Il suffit d'aller dans les salles de concert, on voit le public français, il tape toujours dans les mains à côté. Mais c'est vrai, les groupes en tournée, ils savent quand ils sont en France.
Mais ça C'est un manque d'éducation. C'est vrai que ça ne fait pas partie de notre culture, au contraire des Anglais ou des Américains, mais c'est un manque d'éducation pour vous.
C'est un manque d'éducation d'une part, et puis même dans les familles, hein, je veux dire, les familles françaises, évidemment. On est moins musiciens que ne le sont les Irlandais, les Espagnols, les Italiens, les Allemands, ou évidemment les Sud-Américains ou les Américains. Donc voilà, c'est pas dans notre culture. Et donc à cette époque-là, on est un peu dans un no man's land comme ça, et où des groupes de grands talents, alors il était une fois, ils ont eu relativement du succès, mais ils ont eu du succès de variété, alors que leur premier album était vraiment un très bon album à l'époque, hein, du rock de l'époque.
Un album complètement hippie entre Pink Floyd, Crosby, Stills & Nash, West Coast liturgique et ballade Paul McCartney. Et puis après, variété pop.
Après, la variété, parce que c'était le seul moyen pour eux de survivre. Et c'est pour ça qu'ils ont, d'ailleurs pour le public aujourd'hui, tout le monde se souvient de J'ai encore rêvé d'elle. Et ça passe voilà, pour un morceau de grande variété française. Mais si vous allez chercher des groupes comme Magma, comme Zoo, comme
D'ailleurs, ce chapitre, autant vous donner un nom d'artiste à chaque chapitre, autant ici, il s'agit d'un chapitre baptisé « Il était une fois, d'il était une fois » à Magma, c'est un raccourci assez saisissant quand même. Ça aurait mérité un livre, ce chapitre.
Ça mériterait un livre qu'un autre écrive à ma place, uniquement consacré à ces groupes, hein, Triangle, Les Variations, etc. Alice,
Ange, Gong.
Voilà, tous les groupes de cette époque qui avaient du talent, mais qui n'ont pas réussi à trouver un public parce qu'il n'y avait pas un business en France, et puis parce que en France, contrairement au Royaume-Uni par exemple, on n'a pas réussi à dissocier la musique du showbiz, justement. C'est ce que les Anglais expliquent très bien. C'est, ils disent, nous, le rock, c'était un circuit qui était complètement à part, avec son public, et qui pouvait exister, alors qu'en France, comme vous n'êtes pas parvenu à séparer ces deux trucs, tous les groupes ont été obligés de faire de la variété. Et dès qu'ils avaient un tube, le public de la contre-culture, parce qu'il faut se souvenir aussi de la fracture idéologique qui existait à l'époque entre les gens qui aimaient soit d'ailleurs la chanson de gauche, la chanson Léo Ferré, etc., et les groupes de rock ou le free jazz, et puis le public de la variété, c'était des gens qui se détestaient et qui ne se mélangeaient pas. Donc, on n'était pas accueillis dans l'autre camp si on traversait la route.
Vous dites donc qu'on est au cœur de ce rock français des années de poudre et de plomb qui n'aura pas connu le droit d'exister et que l'histoire fait semblant de vouloir oublier à tout prix. Avec les brumes de Chatou en 1971. Yves Bigot est notre invité ce soir, les amours de la chanson française et du rock. Je t'aime moi non plus, le livre. De retour après un flash ou l'état du monde en 3 minutes, à tout de suite dans la bande passante.
Le magazine que vous allez suivre est une rediffusion.
Musique.
La bande passante.
Musique.
Laurence Pierre.
Comme disait Bayon, grand journaliste culture à Libération que vous citez Yves Bigot dans votre livre « Je t'aime moi non plus », la chanson en France relève du lettrisme, de la poésie. Quand le rock, ça submerge, ça envahit, ça envoûte, ça galvanise. Alors les amours de la chanson française et du rock sont pour le moins tumultueuses. Nous lisons « Je t'aime moi non plus » ce soir en votre compagnie. Yves Bigot, rebonsoir. Et nous croisons Pascal Obispo à Troyes, dans l'Est de la France. Car ce week-end, un chœur de 900 choristes, c'est pas mal quand même, 900 choristes, a conclu le festival Nuit de Champagne. Et comme chaque année, un compositeur-interprète y était à l'honneur, donc Pascal Obispo cette année. 700 collégiens du chœur L'Aube à l'Unisson ont ouvert le festival et c'est Antoine Lalanne Desmé qui parcourt les coulisses pour la bande passante.
Je suis Valentine et j'ai 14 ans.
Charlotte et j'ai 13 ans.
Carole et j'ai 12 ans.
Toutes les trois, vous allez chanter dans quelques minutes, je crois, dans 20 minutes.
Oui.
Alors vous allez chanter des chansons de Pascal Obispo. Est-ce que tu pourrais me donner un exemple dans ce que vous allez chanter ? C'est une chanson pour laquelle c'est particulier.
Moi, celui que j'ai vraiment adoré, c'est Lucie. Parce que ça montre en fait ce qu'il éprouve pour sa grand-mère et son lien avec elle. Alors je le trouve vraiment magnifique.
Les chansons qui veulent dire quelque chose, surtout qui veulent exprimer quelque chose.
Je crois qu'il y a quelqu'un qui vient vous chercher, non ? Vous êtes pressé ? Ah oui, il faut que vous alliez sur scène. Des petits rituels avant de monter sur scène ?
Puis j'inspire, puis j'expire tout l'air que j'ai. Voilà, après je me sens prête.
Chantez bien, hein ?
Merci.
Je vous accompagne jusqu'à la scène, je viens avec vous.
Pauline !
Rappelez-moi votre prénom.
Bruno, je suis enseignant dans un collège à Romilly-sur-Seine.
Enseignants de musique ?
Oui.
Ils sont prêts ?
Oui, ils sont prêts, oui.
Parce que là, c'est la grande première.
C'est l'ouverture du festival des Nuits de Champagne. 29e édition. Et c'est du travail, c'est une discipline, c'est être capable d'écouter l'autre, de chanter avec l'autre. Donc, pour aujourd'hui, c'est super, quoi. Ah, ça y est, c'est parti. On y va. Allez.
Nous sommes au milieu d'un couloir et il y a des jeunes collégiens avec des t-shirts bleus et blancs qui courent dans tous les sens et qui sont placés par l'équipe du festival pour aller sur la scène.
Faites passer les grands. Les grands sopranes. Envoyez les grands sopranes.
Bruno, vous leur avez dit quelque chose juste avant qu'ils montent sur scène ?
Oui, de jeter leur chewing-gum à la poubelle.
Les collégiens du chœur de l'Aube à l'Unisson pour faire un tour aux répétitions du grand chœur. 900 choristes amateurs de tous les âges venus des quatre coins de la France pour chanter Pascal Obispo avec l'artiste lui-même, s'il vous plaît.
Peut-être si vous mettez debout, ça va être plus cool. Hein. Voilà. Alien. Tiens, on dit tous Alien. Hey. Ouais. Alien. Encore ? Encore. Sans amour et sans haine. Avec les genoux. Vous avez vu ce que j'ai fait, hein ? Hey.
Sans amour et sans haine.
On le garde celui-là ? On le garde en stock, on sait que ça marchera ça. Encore ? Hey.
Sans amour et sans haine. On est d'accord.
Alors voilà, nom Leray, prénom Guillaume. Puis chef de chœur cette année du Grand Choral.
Guillaume, vous sortez de répétition. Vous avez dirigé ces 900 personnes, ce chœur, ces 900 choristes. Quand vous les dirigez, Guillaume, vous les impliquez aussi physiquement. Par exemple, un moment, vous leur demandiez de plier les genoux. Pourquoi ?
Alors, moi, j'aime beaucoup dire que quand on ne bouge pas, c'est qu'on est mort. Si on veut raconter quelque chose, même sur des chansons qui sont des ballades, c'est important d'être dynamique et d'être libéré. On ne peut pas se permettre d'être raide comme un piquet. Et puis, on a décidé d'aller chercher plus un angle gospel. Et avec les genoux, du coup, c'est merveilleux. Dès qu'on met les genoux, hop, d'un seul coup, on sent un côté gospel très puissant, quoi.
Pourquoi c'est bien de chanter ?
Chanter, c'est un exutoire, c'est une libération, c'est fou le nombre de gens qui pleurent quand ils chantent. Parce qu'on est débordé par des choses et on les laisse aller. Chanter ensemble, c'est un microcosme. Il y a tout le monde, le petit, le grand, celui qui chante faux, celui qui chante bien, le gars sympa, celui avec les lunettes, celui qui est au fond à côté du radiateur, il y a tout. Tout le monde, mais avec cet amour de la chanson.
Guillaume, je vous laisse parce que je crois qu'il y a la répétition qui va reprendre.
Ouais.
Merci. Hein. Bon concert.
Ah,
d'être un gars.
C'est Alain de Lannion dans les Côtes d'Armor.
Emmanuel de Paris.
Lucille de Paris.
C'était comment de prendre part à ce chœur de 900 personnes ?
C'est génial, ça donne des frissons de 900 voix tout d'un coup. C'est un partage d'émotions qui est génial.
Emmanuel.
Quand on se retrouve à 900, on se dépasse et on s'aperçoit que notre modeste contribution aux 900, finalement, permet d'atteindre des choses qu'on ne peut pas faire tout seul.
Ça dépasse simplement la musique, la chanson chorale. Ça va jusqu'à l'harmonie entre les gens qui sont ensemble. Là, je trouve ça très, 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 très fort, surtout dans une époque à laquelle on vit, où ce sentiment de se retrouver comme ça, aussi bien, aussi en phase avec le voisin, la voisine, et même à l'autre bout de la salle, c'est fantastique.
Sur les coteaux en pente, les vallons amoureux, un rayon de soleil est passé sur nous deux. J'attendais de ce ciel qu'il me fasse juste un signe, et je vois mon château sortir du cœur des vignes. Tu es mon millésime, ma plus belle année, pour ce bonheur en prime que tu m'as donné. Je suis à jamais ta terre, c'est ça, être père.
Millésime chanté par 900 personnes et Pascal Obispo, frisson quand même. Hein. C'était ce week-end à l'occasion de la 29e édition du Festival des Nuits de Champagne. Merci Antoine Lalanne Desmé pour cette immersion. Pascal Obispo, que vous avez eu l'occasion de croiser Yves Bigot. Par exemple, en 1998, vous présidez les Victoires de la Musique. Johnny Hallyday doit venir chanter à l'Olympia et il sera accompagné de Michel Berger en trio avec Pascal Obispo et Jean-Jacques Goldman. Vous vous en souvenez bien ?
Oui, je m'en souviens, j'étais président des Victoires cette année-là. Et effectivement, on avait organisé un peu avec Anne Marcassus, la productrice. Voilà, ce numéro, c'était pas mal. Hein, Johnny chantant, accompagné par Obispo et Goldman au piano. C'était, c'était un des beaux numéros de cette édition-là. Ouais.
Pourtant, un chapitre qui ne commence pas sous les meilleurs auspices, qui concerne Johnny Hallyday. Je m'appelle Jean-Philippe Smet, mais vous ne me connaissez mieux sous le nom de Johnny. Ainsi débute ce chapitre. Vous dites « Le péché originel constituant du rock français est contenu dans cette imposture fondatrice, consanguine de son impossible identité aussi brouillée que le mythe biblique ». Vous y allez fort quand même.
Mais oui, parce que Johnny, quand il a été présenté donc avec ce nom américain, Johnny Hallyday, alors qu'il a son patronyme belge, hein, Smet, ça veut dire forgeron en flamand, et son père était Léon Smet, hein, était d'ailleurs un chanteur, un comédien belge, avant de terminer un peu Clodo. Hein. Mais Johnny, on l'a présenté comme étant un Américain. comme si, en fait, pour être crédible, quand on chantait du rock, on ne pouvait être qu'américain. D'ailleurs, regardez, tous les artistes de cette génération-là, ils avaient des pseudonymes américains. Eddie Mitchell, Dick Rivers, etc. Lucky Blondo, ça va jusqu'à Little Bob, même, qui ont des...
Donc on est proche de l'imposture, là.
Ben, c'est-à-dire, en tous les cas, oui, d'une imposture intellectuelle, en tous les cas, qui est de faire croire que, ben, effectivement, le rock ne peut être chanté en français que par des gens qui seraient en fait des Américains. Ce Johnny, on était jusqu'à aller dire qu'il était, c'était un cow-boy de l'Oklahoma, qu'il avait
un ranch avec des bêtes,
etc. Je veux dire, c'est voilà. Mais le rock français, il ne s'est jamais remis en fait de cette imposture de départ. Parce que finalement, on ne sait jamais si est-ce que c'est du rock français ou est-ce que c'est du rock en français. Déjà, il y a déjà cette équation qu'il faut arriver à tenter de résoudre. Et c'est justement, je trouvais, ce qui était intéressant et passionnant, c'était de voir comment deux, trois générations de musiciens, d'artistes, de chanteurs ont cherché à résoudre, certains pas, hein, d'ailleurs c'est pas obligatoire, dans tous les cas tous ceux qui se sont intéressés à la modernité, et le rock était incarné la modernité, et puis surtout le fait d'être un concert mondial, hein, de la musique, comment ils y sont parvenus, quelles ont été leurs difficultés, quels sont les trucs qu'ils ont trouvés pour y parvenir. Véronique Sanson, Michel Berger, hein, s'y sont beaucoup essayés. Alain Bachung avec ses paroliers.
Michel Berger qui va transformer Johnny Hallyday en véritable chanteur d'ailleurs, et plus en rocker, c'est un pur et simple.
C'est-à-dire, il va en faire un interprète, véritablement. C'est-à-dire, Johnny, c'est quelqu'un, il correspond au lettrisme un peu, hein, dont parlait Bayon, que vous citiez tout à l'heure, Laurence. C'est, voilà, Johnny, le rock, il a ça en lui. Et après, Michel Berger, lui a écrit des chansons avec des vrais textes qui en ont fait un interprète et qui lui ont donné, d'ailleurs, ce dont il avait besoin, hein, c'était la maturité d'un chanteur passant la quarantaine, allant vers la cinquantaine, et qui, évidemment, doit, pour poursuivre sa carrière, chanter autre chose que des adaptations en français de Bebop à Lula et Tutti Frutti. Mmh.
Johnny Hallyday, qui n'est jamais aussi bon que lorsqu'il s'en donne vraiment la peine et qu'il chante vraiment du rock joué comme tel.
Ils sont des hymnes militaires.
Johnny Hallyday, cet orphelin déscolarisé qui s'invente une histoire. Johnny Hallyday aussi, le patriarche, la statue du commandeur, le totem ultime de la France qui n'a pas fait l'ENA, celle qui travaille pour de bon et qui rêve d'une vie meilleure, écrivez-vous Yves Bigot. Voilà ce Johnny Hallyday entre chanson et rock'n'roll. Ici, c'était une reprise du Creedence Clearwater Revival en 1971. Il figure sur ce que vous avez appelé l'album culte, Flagrant délit. Pourquoi avoir choisi cet album et dire que c'est l'album culte de Johnny au milieu de cette discographie tellement pléthorique?
D'abord, c'est sans doute un de ses deux ou trois meilleurs albums dans une carrière qui en comprend quand même une bonne soixantaine.
C'est pour ça que c'est important d'avoir votre regard. Hein.
Alors, parole de Philippe Labro sur tout, voilà, y compris sur cette adaptation là, donc, de Fortunate Son. Mais sur l'ensemble de l'album, Flacon Daily, c'est un album qui a été enregistré à Londres au début des années 70. C'est Gary Wright, donc, qui était le leader de Spooky Tooth, qui a écrit les arrangements, qui a réalisé l'album. À la guitare, c'est Mick Jones, donc, qui était le guitariste de Johnny pendant des années, qui est parti après fonder Foreigner. Donc il a des musiciens anglais qui sont absolument au top. Il a des textes de Labro qui ont vraiment du sens. Et je sais que Johnny, c'est aussi un de ses albums préférés. Mais c'est vrai que c'est pas un des plus populaires, c'est pas un de ceux qui sont le plus vendus. Hein. C'est pas Rock'n'Roll Attitude, c'est pas Gang, ou c'est même pas les rocks les plus terribles hein, pour ceux des, voilà, des fans.
On est dans le rock pur et dur là. Même voilà. La production est bien crasseuse, j'ai envie de dire.
Oui, bien sûr, mais c'est du vrai rock anglais. Hein, joué, voilà, le seul français, c'est Johnny hein, qui est à bord. Et c'est un disque que les vrais fans de Johnny, en tous les cas, et voilà, adorent.
Fin des années 90, Yves Bigot, vous travaillez chez Mercury et vous conseillez Johnny Hallyday sur la suite de sa carrière. C'est l'époque du Laura Datour en 1995. Et vous lui conseillez par exemple d'enregistrer l'hymne à la joie d'Edith Piaf. Ouais, j'aime bien passer comme ça de Creedence Clearwater Revival à Edith Piaf.
Ah ben c'est ça, la musique en France, c'est ça. Hein. Alors d'abord, entre Johnny et Piaf, il y a quelque chose d'évident. C'est elle est née dans la rue pour de vrai. Alors Johnny, il n'est pas tout à fait né dans la rue. Hein, mais en tous les cas, ils ont ça ensemble. C'est des voix du peuple. C'est des voix de la France et typiquement de la France. C'est-à-dire Johnny, son père est belge. Edith Piaf, elle est en partie berbère. Hein, donc voilà, ils incarnent ce que c'est vraiment la musique en France.
Qui ne figure pas dans votre livre, parce qu'on est bien d'accord. Là, pour le coup, on est dans la chanson. Avec la chanson à texte, finalement.
Ça, c'est la chanson réaliste, hein, et puis c'est d'avant la modernité que le rock apporte, même si en fait elle a chanté un rock, Edith Piaf, et très bien, il avait des culottes et des bottes de moto.
Exact.
Hein, et un aigle sur le dos. C'est, ça, Johnny pourrait très bien l'avoir chanté. C'est un morceau de Leiber et Stoller hein, qui écrivait pour Elvis Presley, notamment. Mais en fait, c'était pour un film hein, américain, puisque à l'époque, le groupe Polygram dans lequel j'étais avait une filiale à Hollywood. Quatre mariages et un enterrement, par exemple, c'était un des films qu'ils ont produit. Et un film américain avec Meg Ryan et Kevin Kline qui se passait en grande partie en France. Et donc, les Américains m'avaient dit voilà, on voudrait avoir une chanson française dans la bande originale, puis on voudrait que ce soit Johnny, puisque c'est votre vedette qui la chante. Et j'avais dit une chanson qui incarne la France pour les Américains. Déjà, une interprète, c'est Piaf, et une chanson. C'est l'hymne à l'amour hein, qui est vraiment, en plus, qui parle de Marcel Cerdan, de la liaison entre Edith Piaf et Marcel Cerdan qui meurt dans l'avion qui le ramène des États-Unis. Donc on était dans ce pont que le film représentait aussi et incarnait entre la France et les États-Unis. Et Johnny était très embêté parce qu'il me disait « mais je ne peux pas chanter, je me ferai teindre en blonde ». Et je lui ai dit « peut-être devrais-tu chanter, je me ferai teindre en blond ». Il m'a dit « c'est pas con ça ».
Combien de temps faut-il maintenant? Combien de jours? Combien d'amour pour oublier qu'on s'est aimé? Combien d'endroits vides sans toi et de souvenirs qu'il faut détruire pour oublier qu'on s'est aimé. Combien de fois dire ton nom pour qu'il ne soit
Nino Ferrer dans la bande passante sur RFI. Nino Ferrer fasciné par le Harvest de Neil Young, par Johnny Mitchell, par Stevie Wonder, Marvin Gaye, Genesis. Nino aux albums à pochette prog, écrivez-vous Yves Bigot. Il en prend pour près de 20 ans d'insuccès. Il en prend pour près de 20 ans d'insuccès, d'incompréhension, au gré d'albums formidables, souvent intéressants, parfois ratés, chargés de pépites ignorées. Oui, mais voilà, la France nie la musique et le rock au profit de la chansonnette. On était en 1972, je crois, qu'il y a deux versions qui existent de ce titre, sur son premier EP, paru en 63, oui. Vous me confirmez, et puis sur le fameux album Métronomie en 72, album culte d'après vous sur disque Riviera.
Oui, c'est vrai, et Nino, ben, ce morceau, hein, c'est lui qui l'a composé, donc, hein, et c'est un équivalent de Disarm of Mine par Otis Redding, par exemple. Là, c'est pas, voilà, c'est pas moins bien. Nino, il adorait la musique noire, il adorait la soul music, il adorait le rhythm and blues, il était fan d'Otis Redding, de James Brown, de absolument tous ces gens-là. Et moi, je l'ai récupéré hein, quand je dirigeais Fnac Music Production, donc hein, avant de...
1992.
D'aller... Voilà, exactement, et il est venu me voir, il avait produit un album tout seul chez lui, enfin avec quelques musiciens, mais et je l'ai récupéré et voilà, ça a été c'était un caractère difficile hein, Nino, compliqué, un Italien d'abord, hein, il s'appelle Agostino Ferrari hein, de son vrai nom,
écorché vif.
Ouais.
On apprend des choses incroyables hein, dans le chapitre qui lui est consacré. Moi, je pensais quand même que c'était un personnage un peu plus lisse, même s'il a eu une fin tragique, hein, puisqu'il s'est...
Terrible, il s'est mis une balle dans la tête, ouais, chez lui.
Mais il était extrêmement difficile. Il était capable de casser la porte d'un studio avec, d'un coup de pied si le morceau de lui qu'il entendait était chanté avant la fin.
Irascible. Mm-hmm. Nino, un tempérament de feu. Quelqu'un, je pense, profondément blessé, hein, justement, par l'insuccès... Hein, pendant 20 ans, l'incompréhension de sa musique, qui avait été pourtant la plupart du temps de très très bonne qualité.
Il a eu de nombreux succès pourtant, et puis on peut dire aussi que le mariage était plutôt réussi entre le blues américain et la variété pop pour ce qu'il concerne.
C'est vrai, mais il a eu une longue, longue traversée du désert. Lié au fait qu'il voulait faire la musique qu'il aimait, qui était de la musique anglaise, américaine, etc. Et que voilà, et qu'il n'a pas trouvé de public pour ça pendant des années. Je pense qu'il en a épouvantablement souffert. Comme déjà, il avait un caractère, on va dire, difficile. Hein, au départ, il avait la mèche courte. Hein. Il suffisait de la moindre contrariété, et il explosait, etc. Mais moi, j'ai été très heureux de l'accompagner dans cette voilà, malgré les difficultés. Et puis tout le monde m'avait prévenu, m'avait dit, tu vas voir, il est ingérable.
Est-ce qu'il était en avance sur son temps ? Est-ce que c'était un avant-gardiste quelque part ?
C'était en tous les cas, non. Je pense que c'était quelqu'un qui était vraiment de son temps. Et c'était les autres qui étaient en retard sur lui. Parce que lui, il faisait la même musique que celle qu'il aimait, qu'il adorait. Les Doors, Pink Floyd, Stevie Wonder, etc. Donc non, il n'était pas en avance sur son temps. Mais il était avec son temps. Mais en France... À cette époque-là, dans les années 70 et 80, c'était être en avance.
Avant de se donner la mort, il avait rédigé un petit mot. Ivrogne et bagarreur, têtu comme un mulet, il aurait pu mieux faire, pauvre Nino Ferrer, mais j'ai fait comme j'ai pu et le temps est venu de faire mon testament comme on faisait avant.
Et ouais, ça brise le cœur, non, de lire ça.
C'est un livre qui brise le cœur, de toute façon, Yves Bigot. Je vous remercie beaucoup d'être passé nous voir ce soir dans la bande passante. Un ouvrage magistral, truculent et émouvant, bourré d'anecdotes. Je t'aime moi non plus, les amours de la chanson française et du rock. C'est le volume 1, c'est dire comme on attend avec impatience. Le volume 2, merci beaucoup.
Merci Laurence.
Merci encore Yves Bigot, merci Adamo, merci Julien Mahogarou et Pierre Vallée, la page Facebook de La Bande Passante, vous le savez si vous souhaitez, pour réagir et poser vos commentaires.
Ainsi se termine cette série de bandes littéraires. Demain, les musiques du monde de Laurence Alloir et dès lundi, une nouvelle série consacrée cette fois-ci aux expos et documentaires. Salut, bonne fin de semaine.